France Musique.
Bonjour Philippe Cobert.
Bonjour Vincent Josse.
Avec un cuir tout jeune.
Oh, qu'il est gentil. Non, non, je suis très vieux.
frais et jeune. Je suis très vieux. Philippe Cobert, allez, on vous présente, auteur, comédien, metteur en scène de votre propre existence. Vous reprenez sur scène à partir du 4 novembre et jusqu'au 7 décembre au Théâtre de l'Athénée, La Danse du Diable. Ça vous rappelle le tout début des années 80, ça, Philippe Cobert, 1981.
Eh oui, je suis arrivé presque avec Mitterrand, puisque j'ai créé le 3 mars 81, La Danse du Diable, au Ciné Rio de Bruxelles. Et un peu plus tard, à la Condition des Soirs en Avignon, pendant le festival. Donc en effet, c'est une sorte de boucle, de grande boucle. Mon travail a toujours été des boucles, mais là c'est la grande boucle.
Oui, parce que ça a été le premier d'une longue série de spectacles sur vous, sur votre vie et sur vos rencontres.
On m'a beaucoup dit ça, et moi j'ai toujours l'impression que c'est pas exactement vrai. C'est des spectacles sur ma jeunesse. C'est pas vraiment ma vie, c'est ma jeunesse.
Qu'est-ce qu'était ma jeunesse ?
Un roman d'une jeunesse, ouais. Quoi, un peu. Un roman théâtral, mais il faudra un jour que je raconte ma vie, ma vraie vie, celle qui a été après 30 ans. Mais jusqu'alors, tous ces spectacles ont évoqué la période de l'enfance, de l'adolescence, surtout celui-là, et puis de la jeunesse.
Vous travaillez beaucoup, j'allais dire, sur vous, à vous, en vous. Vous écrivez, d'abord vous improvisez, ensuite vous écrivez, puis vous jouez. Ça vous prend énormément de temps, j'imagine, depuis toutes ces années. Est-ce que vous avez le temps d'écouter de la musique ?
J'en écoute beaucoup, j'en écoute tout le temps. Et j'écoute votre chaîne du matin au soir.
Bravo, voilà. Merci, vous êtes un bon ambassadeur.
Sauf quand ça parle trop.
Bon, alors on va écouter de la musique. Voici le choix, l'un des choix de Philippe Cobert. C'est Jean-Sébastien Bach, c'est pas mal. C'est La Passion selon Saint Matthieu, c'est ce qu'il écoute entre autres chez lui.
Thank you.
Un extrait de La Passion selon Saint-Mathieu de Jean-Sébastien Bach, interprété par Sibylla Rubens, l'orchestre du Collégium Vocal de Gand, sous la direction de Philippe Hervec. C'est l'un de vos choix, Philippe Cobert. Il paraît que petit garçon, vous avez appris la trompette.
Oui, c'était en, je sais plus comment, cours moyen 2 et tout, un jour comme ça, quelqu'un dit « Est-ce que vous voulez jouer un instrument ?» Je dis « Oui, la trompette. » Je sais pas pourquoi, ça me... Et alors, ça faisait beaucoup souffrir ma mère, qui m'enfermait dans le placard pour que je fasse mes exercices dans un placard. Enfin, je n'en souffrais pas du tout, d'ailleurs, non. Je comprenais ça très bien. Non, surtout, elle a fait l'erreur terrible quand je suis passé en 6e, c'est-à-dire quand je suis allé au lycée, etc., pour des prétextes d'éloignement du professeur, d'arrêter ses cours de trompette et de me mettre à la guitare, croyant naïvement que j'allais jouer comme la Goya, la guitare Bach et Vivaldi. Et évidemment, la guitare, je commençais à gratter en copiant... En copiant Sylvie Vartan et Johnny et
compagnie. C'était vos idoles. Donc
je suis parti dans la pire guitare qui puisse être, celle que j'évoque dans La Danse du Diable d'ailleurs, c'est-à-dire la gratte des années 60. Et voilà. Et c'est dommage parce que la trompette, c'est un tellement merveilleux instrument et j'aurais bien voulu savoir vraiment jouer. Ça m'aurait été très utile, en plus quand je suis rentré au Théâtre du Soleil, parce qu'on faisait beaucoup de musique. Donc je tapais sur une grosse caisse.
Et vous êtes un autodidacte, vous qui écoutez de la musique. Ce sont, par exemple, c'est par exemple Ariane Nouchkine qui vous l'a enseigné, qui vous a donné le goût.
Les deux personnes qui m'ont appris la musique, ce qu'on appelle la musique classique, en fait la musique, c'est Ariane Nouchkine, évidemment. D'abord parce qu'elle travaillait avec des musiques, on faisait des exercices avec des musiques, la musique, le Requiem de Mozart était dans l'âge d'or, etc. Et Clémence Massard, ma compagne du Théâtre du Soleil, qui était très musicienne. Mais c'est elle qui m'a fait découvrir La Passion sur Saint-Mathieu, c'est pour ça que j'ai choisi cette musique aussi. Mais sinon, moi, j'étais totalement inculte au point de vue musique. Ma mère m'avait beaucoup plus appris la littérature, etc. Mon père aimait beaucoup l'opéra, mais pour moi, ça représentait un truc archaïque, je ne sais pas. Mais au Théâtre du Soleil, j'ai compris que pas du tout, que c'était vivant.
Vous en avez appris des choses, hein, au Théâtre du Soleil.
J'ai tout appris au Théâtre du Soleil. Je ne vais pas le redire. Si, je le redis. Je le redirai jamais assez.
Vous le dites aussi sur scène, d'ailleurs. On le comprend.
Je le dis tout le temps, oui.
Même s'il y avait des choses irritantes. Forcément, toute communauté est agaçante.
Oui, bien sûr.
Et digne de récit par la suite.
Oui.
Philippe Cobert joue sa vie. C'est un texte que j'ai entre les mains, un livre de Michel Cardoz, où vous êtes entretenu avec lui. Il s'est entretenu avec vous. Il dit notamment ça de Philippe Cobert. On assiste à un spectacle de Cobert comme à une course de taureaux. Philippe est seul dans l'arène. Il taurait sa langue, son histoire, ses parents, ses rêves, le monde, le théâtre aussi. Il se joue la vie, il joue sa vie, il se taurait lui-même. Il est à la fois figura et taureau noble, toujours à la charge. Est-ce que vous vous voyez comme un taureau ?
J'aimerais bien, parce que s'il n'y a rien de plus beau qu'un taureau de combat quand il surgit dans l'arène, et même quand il meurt, contrairement à ce que les détracteurs peuvent en dire. Mais oui, je ne sais pas si je me vois comme un taureau, je me vois plutôt, s'il fallait filer la métaphore, comme un torero, parfois peureux, parfois courageux, et qui, j'espère, le plus virtuose possible. Mais Michel, là, il fait un peu du rentre-dedans, parce que c'est le principe même du livre, puisque c'était de comparer un peu mon travail à la tauromachie, ou d'expliquer en quoi la corrida, pour moi, était une chose importante, etc. Et c'est parti de là, et puis après, ça a débordé sur beaucoup d'autres sujets. Et le travail sur ce livre m'a beaucoup, beaucoup intéressé. Mais en effet, il y a des parentés qui sont intéressantes à essayer de comprendre.
Seul dans l'arène ?
Déjà, oui, la solitude dans l'arène. Pour moi, le taureau, c'est plus la question de la peur. Le torero a peur, et moi, j'ai peur. Et quand on est seul face au public, en effet, il y a quelque chose de tauromachique. Alors, le taureau, qu'est-ce qu'il est imaginaire ? Est-ce que ça peut être le public aussi ? Mais il y a quelque chose de proche qui fait, d'ailleurs, je le raconte dans cette histoire, que le jour où je me suis retrouvé dans les arènes de Nîmes pour jouer Recouvre le lumière, le texte d'Alamon Coucquiol, le frère de Nimenio II, eh ben j'ai pas eu peur, parce que j'ai tellement pensé aux peurs terribles des toreros que ça m'a rendu modeste. Je me suis dit non, j'ai pas le droit d'avoir peur, parce que je vais avoir peur d'avoir un trou. Il y a Véronique, ma souffleuse, qui est là, qui criera de toutes ses forces, et puis je l'entendrai et je m'en sortirai, parce que la peur du coup de corde, c'est autre chose.
Pierre Barou, dans la vie de l'auditeur, j'allais dire, Philippe Cobert, que représente-t-il ?
Pierre Barou, il représente un homme et une femme. C'est ma génération, j'avais 17 ans. Et à l'époque, je me souviens que Jean-Henri Roger, qui est devenu un grand spécialiste du cinéma par la suite, qui est mort, hélas, il y a deux ans, je crois, nous disait, voilà, il y a deux génies du cinéma, c'est Claude Lelouch et Jean-Luc Godard. À l'époque, on les associait. Et j'ai jamais oublié cette comparaison des années 60 et je l'ai toujours respectée et j'ai toujours trouvé qu'elle était juste. Et je n'ai jamais participé à la critique facile contre Claude Lelouch. Et Pierre Barou, bien sûr, c'est ça. Mais pour moi, la chanson que j'ai choisie, c'est une des plus belles chansons du monde.
Et qui s'intitule Pierrot.
Pierrot, Pierrot, tu as ton soleil dans le dos, ta route s'éclaire aussitôt que tu repenses à ton enfance. Pierrot, Pierrot, la vie t'a fait tant de cadeaux, tu n'en percevais que l'écho dans le couloir des impatiences. Et s'il est vrai qu'en ton étoile, souvent recouverte d'un voile, par les ténèbres de l'histoire, une étincelle de l'espoir jamais ne perdit son aura, c'est que Raphaël et Sarah veillaient sur toi. Pierrot, Pierrot, tu as ton soleil dans le dos, ta route s'éclaire aussitôt que tu penses à l'adolescence. Pierrot, Pierrot, et s'il est écrit que bientôt tu vas quitter le chapiteau abritant tes jeux, tes errances, angélisme ou provocation, n'habille pas tes intentions quand tu évoques sans pudeur les parenthèses de bonheur, les bouffées d'amitié, d'amour qui ont parsemé ton parcours au jour. Pierrot, Pierrot, tu as ton soleil dans le dos, en approchant du crépuscule, un point, virgule.
Un Pierre Barou choisi par Philippe Comer, un Pierre Barou assez grave, hein?
Oui, plus que ça, même, je trouve tragique, et en tout cas nostalgique. Oui, c'est magnifique, c'est cet homme qui regarde sa vie. Et puis, que je trouve merveilleux cette chanson, c'est comment il se parle à lui-même. Cette espèce de tendresse qu'il a pour lui-même. Et je trouve, je sais pas, c'est philosophique, une leçon philosophique. Il faut avoir de la tendresse pour soi-même, sinon on ne peut pas l'avoir pour les autres. Et je trouve que dans cette chanson, il y a ça.
C'est-à-dire qu'il faut s'aimer un peu ?
Oui, il faut s'aimer, contrairement à ce qu'on lit partout, les conneries sur le narcissisme et tout ça.
Ah ben on a beaucoup dit que vous étiez narcissique.
Oui, ben, laissons dire. Mais on ne s'aime jamais assez, c'est très difficile de s'aimer.
Vous pourriez revendiquer le fait d'être narcissique, pourquoi pas ?
Oui, d'abord je l'étais quand j'étais jeune, je le suis beaucoup moins forcément. Je l'étais, mais... On ne s'aime jamais assez parce qu'en fait, on se déteste au fond. On ne se supporte pas, on se voudrait comme ci, on se voudrait comme ça, on n'est pas comme ci, on n'est pas comme ça. Et il faut apprendre à s'apprivoiser soi-même et à s'aimer soi-même. Et il n'y a que comme ça qu'on peut aimer les autres. Et le drame, c'est que comme on ne s'aime pas, on n'aime pas les autres.
Revenir aux origines, remonter la danse du diable, premier de cette longue série, on l'a dit tout à l'heure, c'est dire quoi de soi ?
Je ne sais pas si c'est vraiment dire... Je ne sais pas exactement ce que c'est dire de moi. C'est dire de mon travail, ça c'est sûr. C'est
de revenir aux origines.
Puis vous savez, alors je me pose pas tant de questions. Moi, franchement, c'est une question de plaisir et d'intérêt.
Oui, mais c'est cet épisode-là, le premier, oui, que vous avez choisi.
Mais il y a le plaisir de rejouer ce spectacle-là, parce que c'est... D'abord, ce spectacle, c'est pas un épisode. J'ai fait beaucoup d'épisodes, des cycles théâtraux où il y avait des épisodes, c'est-à-dire où c'était comme des romans de théâtre, des feuilletons même. Là, c'est un spectacle fermé sur lui-même. C'est un spectacle, c'est pour ça aussi que je le reprends, il se suffit à lui-même. Il est l'œuf, c'est un œuf dont tout est sorti ensuite. Mais... Et puis, c'est le plaisir de le rejouer, le plaisir de retrouver le spectacle, le plaisir de retrouver les personnages et aussi l'intérêt, parce que ça fait 3-4 ans que je travaille sur des auteurs difficiles, Benedetto et Suarez, et que voilà, c'est un combat âpre que celui de faire avaler au public et à tout le monde des auteurs difficiles. Donc, j'ai eu envie de me remettre un peu avec un auteur facile.
Peut-être.
Qui s'appelle Philippe Cobert.
Voilà, c'est ça. Peut-être de faire rire aussi, de retrouver les rires.
C'est ça que je voulais dire, bien sûr, et de faire rire, de retrouver les rires, de retrouver ce qui est quand même aussi mon métier, c'est de jouer mes textes.
J'entends la voix de Jeff Buckley.
Ah ouais, ça c'est encore une chose tragique. Well, there was a time when you let me know what's really going on below. But now you never show that to me, do you? But remember when I moved in you, and the holy dove was moving too, and every breath we drew was hallelujah, 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 hallelujah. Maybe there is a God above, but all I've ever learned from love was how to shoot somebody who outdrew you. And it's not a cry that you hear at night, it's not somebody who's seen the light, it's a cold and it's a broken hallelujah, hallelujah.
D'accord, c'est un peu tragique, votre choix, Philippe Cobert, mais oui, on l'aime beaucoup, hein, Jeff Buckley.
Il faut que je Alléluia. Dise, c'est un chagrin d'amour. Voilà.
J'essaierai d'en savoir plus en vous menant dans les escaliers au Studio 107 et je le dirai ensuite aux auditeurs.
France Musique.
Philippe Cobert va nous rejoindre au Studio 107. Il reprend La Danse du Diable à partir de début novembre à Paris, au Théâtre de l'Athénée. Vous connaissez peut-être, sans doute même, ce spectacle qui a inauguré sa façon tellement personnelle de faire du théâtre, seul, en scène, en prenant sa vie d'homme et de comédien comme matière première. Nous allons parler de cinéma avec Xavier Leherpeur. Bonjour Xavier.
Bonjour Vincent.
Plusieurs films sur la guerre à l'affiche, on en parlera dans un tout petit instant avec vous. Vous écouterez chanter et parler Cécile de Kervas-Doué. Elle chantera le pape aujourd'hui, rien que ça, dans l'actualité chantée avec le pianiste et compositeur Benjamin Laurent. Et puis Nicolas, je vois 1, 2, 3, 4 musiciens, assez jeunes d'ailleurs, qui sont assis avec des cordes entre les mains.
Oui, nous recevons le quatuor Hermès ce matin au studio 107, le quatuor Hermès qui vient de sortir un disque consacré à Robert Schumann et qui paraît chez la Dolce Volta.
Alors vous savez que chaque matinale et chaque direct est une expérience.
C'est une expérience, oui.
Et j'ai perdu Philippe Cobert dans les escaliers.
Je
pourquoi
sais pas ce que vous en avez fait, Vincent.
Il a eu envie de faire un petit pipi, hein, car il est un acteur, mais c'est aussi un homme, un être humain, comme nous tous. D'ailleurs, il raconte son humanité sur scène depuis le début des années 80, après avoir passé de longues années en compagnie d'Ariane Nouchkine au Théâtre du Soleil. Il est né au théâtre avec Nouchkine. Alors, depuis La Danse du Diable, il raconte sa jeunesse, nous disait-il tout à l'heure. Et dans sa jeunesse, il y a une femme très importante qu'il dévore un petit peu, qui s'appelle Madame sa mère. C'est Claudine. Claudine qui ne supporte pas, par exemple, que son fils ait des idées communistes. Et voilà ce que ça donne quand Cobert et Claudine en scène.
Le bonheur chez les Russes, qu'est-ce que tu racontes, Ferdinand? Le quoi chez les qui? Le bonheur chez les Russes, Madame Colbert, maintenant. Ah non, là, il y a quand même des choses que je ne peux pas laisser dire sous le toit de cette maison. Ah non, ça, le bonheur chez les Russes, ça, c'est pas possible. Ça va pas. Ferdinand, tu vas y voir à Moscou, mon petit garçon, demander à Souyounouchine. Tu sais très bien de qui je veux parler. Souchililin, bordel à cul. Putain d'Adèle, je ne sais pas prononcer son nom. Justililin. Stulichulchin. En tout cas, s'il est heureux, faire cet homme extraordinaire, avec sa barbe à fleurs. Non, c'est pas Charlemagne, c'est Souyounouchine qu'on a enfermé toute sa vie dans une goulache. Oh, tu m'énerves. Alors, Madame Colomère, maintenant, je vous annonce, mon fils est communiste, Madame Colomère. Ah non, mais je vous jure, c'est d'un grotesque. Oh non, Ferdinand communiste, je rigole. Madame Colomère, je rigole. Pas du tout, vous êtes trop de paiement, c'est des idées généreuses. C'est des idées vulgaires, Madame Colomère, c'est des idées vulgaires, c'est des idées de fils de bourgeois, voilà, inoculées par des intellectuels pourris. Oui, bah, d'accord, mais à ce moment-là, tout le monde est communiste. C'est trop facile, vous comprenez? Alors, à ce moment-là, je suis communiste. Isabelle, la petite fille, tu es communiste. Mais non, ne pleure pas, Isabelle. C'est une façon de parler, fous le camp dans la colline, tu m'énerves.
Voilà, Philippe Cobert est avec nous. Ça va, Philippe?
Oui, ça va.
J'aime bien quand vous écoutez Philippe Cobert jouant la mère, parce que ça vous fait encore rire 30 ans après.
Oui, c'est très drôle.
qu'est-ce que je suis drôle? Surtout, qu'est-ce que ma mère est drôle avec le recul?
Oui.
Quel bonheur d'avoir une mère comme la vôtre.
Ah bon?
Ça permet de tenir longtemps
en scène.
Qu'est-ce
qu'elle m'a pu me casser les pieds pour être poli?
Bah justement, ça fait un personnage de scène incroyable.
Oui. Non, mais ça, c'est la merveille du théâtre, c'est que ça sauve tout. Non, c'était une femme merveilleuse et extrêmement amusante. Mais disons, c'était une mère, en effet. Mais elle n'était pas du tout faite pour ça. Elle aurait dû être prof. J'ai toujours pensé que ma mère aurait dû être prof et on aurait dû l'envoyer dans les pires banlieues, les plus dures, les plus. Elle aurait été, mais formidable.
Elle aurait
affronté ça sans problème. Ben, par exemple, elle était toujours merveilleuse avec tous mes petits copains qui étaient nuls à l'école, qui, avec leurs mobilettes, leurs trucs, qui volaient dans les magasins. Elle les redressait gentiment. Elle avait une pédagogie extraordinaire, mais pour ses enfants, elle était absolument catastrophique. Moi, je suis un fils de bourgeois. Elle nous élevait comme si on était, mais vraiment, sur un bateau amiral, enfin, dans une rigueur, une sévérité. On n'a jamais pu profiter du fait qu'on était des enfants de bourgeois. On avait moins d'argent de poche que les autres. Il fallait qu'on mette les habits des frères, des sœurs. Elle nous répétait à longueur de journée qu'on avait une chance honteuse. Voilà. C'est pour ça, après, quand j'étais au Théâtre du Soleil, puis les gens me disaient « Ariane, quel cauchemar, c'est une salope !» Et tout. Je dis « Attends, t'as pas connu ma mère ?» C'était une merveille, Ariane, à côté.
Est-ce qu'elle a vu sa présence en scène grâce à son fils,
mais
votre
non,
mère?
Non, bien sûr que non. C'est parce qu'elle est morte que j'ai fait cette pièce.
Vous n'auriez pas pu de son vivant?
Non, ça aurait été impossible. D'abord, il n'y aurait pas eu de nécessité de la faire. La pièce a vraiment été faite parce que la mort de ma mère a été, pour moi, à l'époque, un tel traumatisme. J'en savais rien, d'ailleurs. Hein. C'est comme les vrais traumatismes, on ne sait pas qui sont là. Mais puisque je ne suis pas du tout parti pour parler de ma mère, je suis parti pour faire une pièce sur moi. Je voulais faire une pièce sur moi. Et je me suis trouvé à faire une pièce sur ma mère. Bon, après, je vous laisse en tirer des conclusions, mais je ne suis pas du tout parti pour faire une pièce sur ma mère. C'est le hasard absolu du travail qui l'a amené au milieu.
On parle de soi en parlant de sa mère. Il y a des psys qui ont dû se pencher sur le cas Cobert. Hein.
Oh, je suis pas sûr que ce soit très compliqué à comprendre. Vraiment, ça, c'est pas très... Non, c'est pas... J'ai allé à l'époque, quand je faisais les grandes séries au rond-point et tout, je m'en rappelle, j'étais tombé sur un psy qui m'a dit, mais on est toute une équipe de psy, on suit tous vos spectacles, on vient les voir. Oui, c'est
ça vous a fichu la drouille.
Un club de psychiatres qui suivait mes spectacles.
Ça pourrait être un spectacle en soi, ça, le résultat.
Ça m'avait beaucoup amusé.
Restez avec nous, Philippe Cobert, à 9h11 sur France Musique. Vous voyez qu'il y a des musiciens derrière vous. Hein. C'est le propre de cette seconde partie de la matinale culturelle de France Musique. Nicolas Lafitte, vous nous les présentez
à
nouveau, parce qu'ils vont jouer là.
Ils vont jouer, exactement. Nous avons de la chance, Vincent, de recevoir le quatuor Hermès aujourd'hui, tant ils sont demandés en ce moment. Les quatre musiciens reviennent de 3 semaines de tournée aux États-Unis. Ils seront la semaine prochaine en Suisse, puis en Belgique, en France et en Allemagne au mois de novembre. Et au milieu de tous ces concerts, eh ben, il faut assurer la promotion de leur deuxième disque paru lundi sous le label La Dolce Volta. Un disque France Musique, un enregistrement consacré à Robert Schumann et à ses 3 quatuors à cordes opus 41, composé l'été 1842. Schumann avait déjà beaucoup composé de nombreux leaders et de pièces pour le piano, mais ses quatuors sont ses premières œuvres de musique de chambre. On approfondira le sujet tout à l'heure avec eux autour de cette table. Omer Boucher, Élise Liu Lu Chang et Anthony Kondo du quatuor Hermès nous interprètent le deuxième mouvement du quatuor à cordes numéro 3 en La majeure opus 41. De Robert Schumann en direct sur France Musique.
Thank you.
En direct sur France Musique, le deuxième mouvement Assai Agitato du Quatuor à cordes numéro 3 en La majeur opus 41 de Robert Schumann par le Quatuor Hermès qu'on retrouve tout à l'heure.
Philippe Cobert, quand vous écrivez La danse du diable, que vous reprenez bientôt début novembre au Théâtre de l'Athénée à Paris, vous avez quitté le Théâtre du Soleil, ça, cette expérience-là, c'est terminé. Mais comment allez-vous à l'époque ?
Eh bien, j'étais dans un espèce de désarroi. Je m'excuse, je suis encore sous le coup de
bien sûr.
Ce qu'on vient de voir et d'entendre. C'est une telle force. Seulement d'entendre la vraie musique, le vrai son de la musique en direct, c'est incroyable.
Et je vous ramène au début des années 80, effectivement.
Non, le temps n'existe pas pour moi, vous savez. Mais oui, j'étais dans un désarroi total, parce que d'abord, d'avoir quitté le Théâtre du Soleil, ça a été un truc horrible, ça a été comme une rupture amoureuse. Il fallait que je parte, mais ça a été affreux. Et puis, j'avais goût à rien, comme on dit, c'est-à-dire, je suis sorti de là, c'était comme une seconde enfance, le Théâtre du Soleil. Et voilà, j'avais pas envie d'entrer dans la carrière, comme à l'époque Ariane pensait que j'allais faire ou que j'allais vouloir faire. J'avais envie de monter des spectacles, d'être metteur en scène, mais je savais pas comment il fallait faire pour trouver de l'argent. Or, il faut trouver de l'argent pour être metteur en scène. J'avais eu la chance que de faire ma première mise en scène au Théâtre du Soleil, qui était Don Juan de Molière, qui avait été un très beau spectacle et un très beau succès, mais j'avais eu tous les moyens. Et là, je ne savais pas comment on faisait pour les trouver. J'avais envie d'écrire, mais c'était vague. C'était une envie d'écrire. Qu'est-ce que c'est qu'avoir envie d'écrire ? Donc, j'avais pas du tout envie de faire carrière au cinéma ou quoi. J'étais vraiment dans la merde, il faut le dire.
Mais on ne vous proposait rien à l'époque. Vous étiez,
si,
vous étiez la vedette du soleil.
Non,
vous aviez joué Molière, etc.
Non, on me proposait des choses.
Mais rien ne vous intéressait.
Ben non, 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 non. Je me souviens à l'époque, par exemple, j'avais eu droit à la. J'avais rencontré Jacques Brel qui préparait Extérieur Nuit. J'en parle, c'est marrant parce que ensuite j'ai connu Christine Boisson qui a été très connue par ce film. Et j'avais lu ce scénario, je me souviens très bien, ça m'avait pas branché quoi. Et après, j'ai trouvé le film formidable et d'ailleurs les acteurs étaient beaucoup plus adaptés que ce que j'aurais pu l'être moi-même. Et ils étaient tous formidables. C'est là qu'est né Dussolier, Gérard Lanvin et Christine Boisson, c'est quand même pas mal. Et on s'est rencontrés avec Christine quelques mois plus tard à l'atelier théâtral de Louvain-la-Neuve, dans un Lorenzaccio dont j'ai fait beaucoup d'épisodes.
C'est vrai. Vous en parlez dans le roman d'un acteur.
Mais non, je vais vous dire, j'avais envie d'être Molière, voilà. Mais je ne pouvais pas le dire, parce que quand on sort, c'est comme l'acteur qui est sorti du Napoléon d'Abel Gance, qui toute sa vie s'est pris pour Napoléon. Donc je me prenais pour Molière, et dans le secret de mes carnets, ou de mes écritures intimes, ou de mes pensées, mais je ne pouvais quand même pas le dire. Et voilà, et j'avais envie d'écrire des comédies contemporaines, d'écrire des comédies sur mon époque. Pour parler vite, voilà, c'est ça que je voulais.
On va revenir à vous, à votre itinéraire, à votre jeunesse, puisqu'elle est en scène dans cette danse du diable. Philippe Cobert, à quel moment vous avez su que votre vie sur scène, dans votre écriture après vos improvisations, vue par vos amis, à quel moment vous avez su que votre vie passerait par le comique ? Parce qu'on rit, on a entendu tout à l'heure l'évocation de vos envies communistes, de vos désirs communistes par la mère, hein, quand vous incarnez votre mère. On riait du début à la fin à ce moment-là. Il y a d'autres moments comme ça. On ne rit pas toujours. Vous n'avez pas uniquement tiré ce fil, mais il y a quand même de la comédie et même de la comédia dell'arte qui au départ est là.
Oui, c'est surtout de la comédie, même de la farce, je dirais. C'est encore une fois, je risque de paraître un peu répétitif, mais c'est Ariane Nouchkin qui m'a
encore
vraiment... un jour, elle m'a dit « Arrête de vouloir être Gérard Philippe ». Et puis elle m'a mis un masque d'Arlequin sur la figure. Parce qu'on parlait de narcissisme, voilà, c'est vrai que j'étais quand même beaucoup dans ce narcissisme adolescent. Mon époque, c'était Gérard Philippe, donc je m'en regardais à la glace. J'appuyais sur mon nez parce que Gérard Philippe, il avait le nez aquilin et que moi, j'avais ce putain de nez qui remontait. Je veux avoir le nez aquilin. Je faisais ça avec les oreilles pour avoir les oreilles décollées.
Et vous disiez l'essence du cid à votre miroir ?
Bien sûr, je disais l'essence du cid, pas à mon miroir, non, non, pas du tout, à mon père, dans les maisons d'enfants où j'allais, je faisais pleurer, je pleurais beaucoup. J'avais un rêve d'acteur romantique. et qui que je revendique tout à fait et que je trouve pour ça que le film dont vous parliez, je vais sûrement aller le voir, Change ton bac d'abord mm-hmm. parce que l'autre film auquel il fait allusion est tellement un immense film. Et puis le sujet, c'est celui-là, quoi, c'est-à-dire les parents ont peur, on veut les rassurer, en même temps on a peur soi-même, mais c'est vraiment le masque d'Arlequin et la comédie dell'arte qui m'ont fait révéler à moi-même comme comédien, qui m'ont fait trouver mon talent de comédien, ma personnalité de comédien, qui était d'être un comique. Et donc, à partir de là, après, il y a eu Molière et l'idée, je vous disais tout à l'heure, d'écrire une comédie. À l'époque, on disait l'époque moderne. Moi, je voulais faire une comédie sur l'époque moderne, mais qui soit personnelle, qui soit pas uniquement sur les thèmes comme on faisait à l'époque. Je jouais dans l'âge d'or un ouvrier arabe qui mourait sur le chantier de Fos-sur-Mer. Mmh. De Fos-sur-Mer. Moi, je voulais raconter ma propre comédie, ma propre tragédie, ma propre place dans l'histoire, là où j'étais. À l'époque, je découvrais Proust, etc. J'avais envie d'être vraiment moi-même, mais sous la forme burlesque et sous la forme de la farce, dont je trouve que la grande farce, il n'y a rien de plus proche que la grande tragédie, que la grande farce. André Suarez parle de ça magnifiquement dans son livre sur Shakespeare. Et voilà, c'était mon rêve et je ne l'ai pas réalisé en partie, en toute petite partie, mais j'en ai réalisé quand même une partie, ce qui est déjà finalement pas si mal.
André Suarez, que vous aimez beaucoup,
un écrivain
que vous vénérez, qui a dit entre autres « tout artiste est un enfant malade ».
Oui, je ne suis pas sûr que ce soit exactement la phrase, mais
c'est cité dans le bouquin de Cardoz.
Oui, oui. Mmh. C'est l'idée, c'est qu'un artiste est un enfant malade, et j'ai toujours trouvé ça juste, et que c'est pour ça qu'il fallait d'ailleurs aimer les artistes, parce qu'il faut aimer les enfants malades, et que voilà, et qu'il faut admettre l'idée que peut-être, alors on est tous artistes quelque part en nous-mêmes, et il y en a qui se sont guéris. On est tous des enfants malades, mais voilà, les artistes sont pas guéris. Donc il faut avoir pour eux peut-être une indulgence et une tendresse particulière et pas toujours leur faire porter tous les maux du monde.
Bon, on vous aime, Philippe Cobert.
Merci beaucoup. C'est pour ça que je fais la danse du diable. À part gagner ma vie, c'est
pour être aimé, pour être applaudi aussi et pour faire
absolument,
rire. Voilà,
oui.
Ça fait partie de vos désirs, de vos besoins. 4 novembre au 7 décembre, Philippe Cobert, la danse du diable au théâtre de l'Athénée à Paris. Signale aussi la sortie du livre de Michel Cardoz, Les entretiens avec Philippe Cobert. C'est un joli titre. C'est Philippe Cobert joue sa vie aux éditions Gascogne. Vous avez le droit de rester avec nous si vous le souhaitez, Philippe Cobert, parce que musique encore.
Oui, retour au live avec le quatuor Hermès. Il nous interprète le deuxième mouvement du quatuor numéro 2, Lettres intimes de Leos Janáček. Le quatuor Hermès en direct du studio 107 de France Musique.
Thank you.
Le Quatuor Hermès en direct sur France Musique. Nous interprétait le deuxième mouvement du Quatuor numéro 2, Lettres intimes de Leos Janáček.
France Musique.
Et dans quelques minutes, comme... Dans quelques minutes, non pas dans quelques minutes, dans deux heures, ça fait beaucoup de minutes, vous pourrez retrouver la vidéo du live sur notre site internet francemusique.fr à la page la matinale culturelle. Bonjour messieurs du Quatuor Hermès. Merci beaucoup d'être avec nous. J'ai l'impression, Philippe Cobert, que vous étiez très ému en regardant le Quatuor Hermès.
J'ai pas l'habitude d'aller au concert, etc. Donc d'entendre la musique vraie, ce que je disais tout à l'heure, c'est complètement différent. Puis c'est des musiques magnifique. Puis ils sont très beaux tous les quatre. Vraiment, vous êtes magnifiques. C'est beau de vous voir travailler, parce que c'est un travail. En même temps, vous êtes dans l'inspiration. C'est vraiment un cadeau.
Il y a une grande implication du corps.
Oui, vraiment.
Les auditeurs ne les voient pas, mais une très grande implication du corps et des regards.
Vous vous rappelez quelque chose d'important, c'est-à-dire que c'est une musique qu'il faut aller voir en concert plus que jamais.
Oui, vraiment, vraiment.
Pourquoi vous dites ça ?
Bah oui, parce que je pense que la 50% de l'énergie musicale se transmet directement visuellement. Je pense que les gens écoutent beaucoup avec les yeux. Et nous aussi, on a l'expérience de l'enregistrement en studio qui n'est pas la même que les concerts. On sent que notre énergie n'est pas la même. Enfin, on essaye en enregistrement de faire comme au concert, de donner autant, mais c'est vrai que...
C'est plus difficile.
C'est même avec toute la bonne volonté du monde, il n'y a pas cette espèce d'électricité dans l'air qu'on ressent au concert.
C'est tout l'intérêt aussi du disque, c'est de chercher à faire autre chose que ce qu'on peut faire dans un concert. Mais c'est en ça où le concert est très important, c'est qu'une grosse part de notre travail, c'est aussi de comment transmettre l'émotion et l'idée musicale aussi sur scène, rien que visuellement. C'est-à-dire qu'il ne faut pas rentrer dans une idée de cinéma ou d'être faux, mais on joue des émotions en fait. On joue la musique qui a été composée par quelqu'un et ce n'est pas nous qui composons.
Philippe Cobert, il parle comme des jeunes comédiens.
Comme devraient parler les jeunes comédiens, malheureusement, je suis là-dessus beaucoup moins optimiste que vous. C'est-à-dire, autant je suis émerveillé par les musiciens, par les cinéastes, puisqu'on parlait de cinéma, autant je suis très inquiet de la situation du théâtre. Je trouve que l'art du théâtre se perd terriblement depuis longtemps maintenant.
Il n'y a plus cette foi et cette envie d'un corps devant un public.
Les gens de théâtre pensent mal. Ils pensent mal. Ils pensent. C'est la seule forme d'art qui n'a plus pas bougé depuis 68. L'art du théâtre a incarné 68 plus que tout autre. Il a été le témoin de 68. Mais il en est resté là. Il n'a pas bougé. Le roman a bougé, le cinéma a bougé, la musique a bougé, pas le théâtre. Et il faudrait que les jeunes acteurs écoutent les jeunes musiciens parler de leur travail. Vous savez, je parle de la corrida là-dedans,
oui, dans le livre,
en dehors de tous les débats pas très intéressants sur la corrida, et des toreros, parce que c'est la même chose. Un torero qui souvent ne sait pas s'exprimer parle mieux de ce que c'est que le théâtre qu'un comédien. Et c'est la même chose pour les musiciens. Ils parlent mieux du théâtre que pourraient parler deux comédiens.